Galhistoire, l'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Galhistoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Galhistoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants en sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne? Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps? Essayez dès maintenant l'application Galhistoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Dans la classe 2 ». Avec « Dans la classe 2 », vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti, écoutez ces figures de l'histoire, vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt ? Alors, en avant pour découvrir dans la classe de
Mozart.
Je suis dans Cascade-Tanzé, piqué par la banane. Et ça fait Zumba, café au carnaval. Je suis dans Cascade-Tanzé, piqué par la banane.
Bien. Rangez vos instruments, s'il vous plaît. Nous allons maintenant faire un petit peu d'histoire de la musique classique.
Oh non, c'est ennuyant, la musique classique.
Ennuyant? Vraiment? Bah, c'est vrai que nous, on préfère le rap, hein.
Ou le rock.
Angèle! Balançons quoi?
Je vois. Eh bien, écoutez, je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui va vous montrer que la musique classique est tout sauf ennuyante. Pour ça, nous allons utiliser...
Le grand livre d'histoire!
Exactement! Et aujourd'hui, je vais vous présenter... Wolfgang Amadeus Mozart.
Ils sont rigolos, ces cheveux.
Je crois que c'est une perruque.
Il a l'air jeune pour faire de la musique classique, non?
Bonjour, jeunes gens. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que je fais ici?
Monsieur Mozart, c'est un plaisir de vous recevoir. Avec mes élèves, nous souhaitions en apprendre davantage sur la musique classique. Comme vous en êtes une figure incontournable, je me demandais si vous pouviez répondre à certaines de leurs questions.
Bien sûr! Moi aussi, à leur âge, j'avais des questions plein la tête. Surtout sur la musique.
C'est vrai que vous avez commencé à jouer d'un instrument à 6 ans?
6 ans? Non, tout de même pas si tard. Mais n'allons pas plus vite que la musique. Je vais tout reprendre depuis le début. Tout d'abord... Il faut savoir que je suis né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, en Autriche.
Vous vous souvenez, les enfants? Nous avions parlé de l'Autriche durant notre dernière leçon de géographie. C'est un pays de l'Union européenne, proche de l'Allemagne, de l'Italie ou encore de la Hongrie.
Mon père était un célèbre professeur de musique. C'est peut-être ça qui m'a aidé à débuter si tôt. Car selon lui, il paraîtrait que je jouais du clavecin avant même de savoir lire et écrire. Et c'est à 6 ans, comme tu le disais, jeune homme, que j'ai commencé à composer mes premières œuvres. Oh, bien sûr, ce n'était pas ce que j'ai fait de mieux, mais ça impressionnait tout de même beaucoup de monde.
Tu m'étonnes. Moi, j'ai déjà du mal à souffler dans ma flûte sans que ça fasse un bruit de trompette.
Ça viendra, ne t'en fais pas.
Il devait être trop fier de vous, votre papa, non?
Oui, c'est vrai. C'est pour cela que... En 1763, avec ma sœur Maria Anna, qui était également une excellente musicienne, il nous a emmenés dans toutes les grandes capitales européennes pour donner une série de concerts.
Wow, comme les rockstars qui font des tournées.
Paris, Londres, Rome, Vienne. C'était incroyable pour un enfant de 7 ans comme moi. Je voyageais grâce à la musique. Vous vous rendez compte? Et tout cela devant un public de plus en plus nombreux en plus.
Il y avait des gens importants. Parce que nous, pour notre pièce de théâtre l'année dernière, même le directeur de l'école, il est venu.
Ah, ça oui. Des personnalités importantes, il y en avait plein. Mais mon souvenir le plus marquant, c'est lorsque j'ai donné un concert devant le roi Louis XV, au château de Versailles.
Wow.
En 1763, le château de Versailles était la résidence du roi et de son épouse, notre bonne reine. Vous auriez dû voir ça. Ces jardins splendides, ces fontaines gigantesques et toutes ces personnes si élégamment vêtues qui venaient assister à notre récital. Je me croyais dans un rêve.
Et c'est pour ça que c'est votre meilleur souvenir ?
Ah, oui, aussi. Mais c'est surtout parce que les friandises que la reine me proposait étaient délicieuses. Dès qu'un plat me passait sous le nez, hop, je ne pouvais pas m'empêcher d'y goûter. À même la vaisselle en or s'il le fallait. En me voyant faire, mon père ne savait plus où se mettre, mais je ne pouvais pas résister.
Vous avez dû rencontrer plein de gens pendant ce voyage.
Oh, oui, c'était très enrichissant. Je côtoyais les plus grands compositeurs de mon époque. Je pouvais discuter avec eux, les entendre jouer et leur demander conseil.
Wolfgang, vous devriez augmenter d'un quart de ton.
En 1764, j'ai même eu la chance de rencontrer Jean-Christian Bach, le fils du célèbre Jean-Sébastien Bach, un musicien allemand extrêmement doué.
Je pense que le si bémol est la meilleure solution.
Jean-Christian était aussi très talentueux et, bien qu'il ait 29 ans et moi seulement 8, nous sommes devenus amis et avons gardé contact pendant plusieurs années.
La chance ! Moi, j'aimerais trop être copain avec un grand pour qu'il m'apprenne à jouer de la batterie.
Mais du coup, vous ne rentrez plus jamais en Autriche ?
Ah si, bien sûr ! J'adorais voyager, mais j'étais trop attaché à mon pays pour le quitter définitivement. À 17 ans, j'étais de retour à Salzbourg et je suis entré au service du prince archevêque Hieronymus Colloredo, un homme puissant qui était également le patron de mon père.
Vous étiez toute la journée avec votre papa ? Moi, j'aimerais trop.
Oui, c'était plutôt agréable. J'étais payé pour composer, jouer et accompagner l'archevêque partout où il allait.
Le public de Vienne était en feu ce soir.
Mais malheureusement, ça n'a pas duré bien longtemps.
Pourquoi ? Vous en aviez marre de la musique ?
Oh là, non ! Jamais de la vie ! Non, il s'est juste avéré que je ne m'entendais pas du tout avec l'archevêque Colloredo. Disons que nous avions beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accorder nos violons. Car en plus de refuser de me laisser partir en voyage, il m'imposait la forme des pièces que je devais composer.
Ce sera une sonate, Wolfgang. Un point, c'est tout. Et ne discutez plus.
Alors qu'il n'était même pas musicien. Il n'y connaissait rien du tout. Tout ce qu'il disait, c'était du pipeau. Alors, nos disputes sont montées crescendo, et en 1775, j'ai décidé de claquer la porte et de partir m'installer à Vienne.
Quoi ? Et votre super travail, alors ?
Ce n'est pas grave. Je deviens ce qu'on appelle un musicien libre.
C'est un peu comme un Gaulle volant ? Oui, on peut dire ça. Ça veut surtout dire que Monsieur Mozart ne travaille plus pour une seule personne, mais qu'il devient notamment professeur particulier de musique pour les riches familles de Vienne.
Et c'est super ! Je gagne ma vie tout en retrouvant enfin ma liberté. Et puis Vienne est une ville splendide qui m'inspire énormément. C'est d'ailleurs là-bas que je compose certaines de mes œuvres les plus importantes, comme Les Noces de Figaro ou La Flûte enchantée. Pour l'empereur Joseph II, j'ai même composé un opéra intitulé L'enlèvement au sérail. Et vous savez en quoi il a bousculé les codes de l'époque ?
Parce qu'on ne comprend rien au titre.
Un sérail, c'est un palais. Ma pièce parle d'un homme qui veut libérer sa fiancée prisonnière de ce palais. Mais si cette œuvre était si particulière pour l'époque, c'est parce qu'elle était écrite en allemand. Jusqu'ici, tous les opéras étaient composés en italien. Je peux vous dire que cette nouveauté a fait une entrée en fanfare dans le monde de la musique classique. Et j'étais très, très content de faire bouger les choses. Et puis, quelques années plus tard, ma vie a changé. Car même si l'on dit que Paris est la ville de l'amour, moi, c'est à Vienne que j'ai rencontré le mien. Elle s'appelait Constance Weber et venait elle aussi d'une grande famille de musiciens. Le 4 août 1782, nous nous sommes mariés sans l'accord de mon père. Car il avait peur que cette union m'éloigne de la musique. Quand il a appris mon mariage, il était fou de rage. Mais je m'en moquais. L'amour était plus fort que tout. Et avec Constance, nous avons eu 6 enfants.
Comme quoi, Faut pas toujours écouter ses parents.
Moi, on m'a dit que quand vous étiez loin de votre amoureuse, vous parliez à son portrait pour faire comme si elle était là. C'est vrai ?
Oui. Une demi-heure, tous les matins et tous les soirs.
C'est quand même vachement plus pratique le téléphone portable maintenant. Enfin, j'y saisis rien.
Et il avait raison, votre papa ? Ce mariage vous a fait arrêter la musique ?
Au contraire ! L'amour m'inspire et j'ai composé plus que jamais des sonates, des concertos, des symphonies et bien sûr, des opéras.
Oui, ce sont des œuvres qui ont tellement marqué l'histoire de la musique qu'elles sont encore jouées aujourd'hui partout dans le monde.
En 1783, j'étais au sommet de ma gloire et j'ai même trouvé le temps de devenir franc-maçon.
C'est pas un peu bizarre de vouloir se mettre à construire des murs après être devenu un grand musicien ?
Mais non, un franc-maçon, c'est différent d'un maçon tout court. La franc-maçonnerie est une organisation secrète d'hommes et de femmes qui se réunissent pour discuter de différents sujets de société. Lorsque l'on en fait partie, il y a de nombreuses règles à suivre et c'est très difficile d'y être accepté.
Mais moi, en 1784, je suis initié. C'est-à-dire que je deviens enfin franc-maçon. Et je vais même composer plusieurs œuvres pour eux.
Encore ? Mais... est-ce que vous travaillez pas un peu trop ?
Eh bien, si, un peu. Avec ma femme et nos 6 enfants, on avait du mal à s'en sortir financièrement. Et puis moi, ben, je savais pas très bien gérer mon argent et j'ai accumulé beaucoup de dettes. J'étais en train de composer un requiem, une pièce que l'on joue pour les enterrements, lorsque je suis tombé malade. Et le 5 décembre 1791, je meurs à 35 ans. Sans même avoir pu le terminer.
Si ça peut vous rassurer, votre femme a demandé à l'un de vos élèves de le finir à votre place.
Vraiment ? Ah ! Mais c'est une excellente nouvelle, ça ! Est-ce que vous avez encore des questions, les enfants ?
C'est vrai que si vous entendez une chanson une fois, vous pouvez reconnaître toutes les notes ?
Bien sûr ! Un jour, j'étais en voyage à Rome et j'ai entendu une pièce superbe. Mais les choristes avaient interdiction de partager la partition, sinon ils pouvaient se faire renvoyer. Heureusement, après une seule écoute, j'ai pu déchiffrer et retranscrire tout ce qui était joué. 2 jours plus tard, j'y suis même retourné pour m'assurer que j'avais tout bon. Et vous savez quoi ? C'était parfait !
Wolfgang !
Allez, je dois vous laisser maintenant. Parce que même là où je suis, je continue de composer. À bientôt, les enfants !
À bientôt, Wolfgang Amadeus Mozart !
Qui veut faire un groupe de musique classique avec moi ?
Moi ! Moi, j'ai trois jours !
Oh, trop stylé comme idée.
Et ça fait zumba, café ou café au carnaval.
Ravie de voir que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Corps, interprété par Vincent Paillet et Clara Ziegler, mis en musique par Léopold Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe de...
Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr.